annoncer la bonne nouvelle à d'autres. Donc ça, multiplication physique et spirituelle, des disciples qui forment d'autres disciples, donc ça c'était vraiment souligné à plusieurs reprises. Il était aussi question depuis le début que dans chaque département qui fonctionne dans une église, il faut faire une évaluation. Il faut se rencontrer, il faut se parler comme une famille. On n'est pas des dirigistes, mais les responsables ont quand même une autorité de la part de Dieu, donc ça, il faut respecter, d'accord? Mais il faut discuter, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas freiner l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons encore plus heureux, donc dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la prédication, on se retrouve parmi nous une fois de temps en temps, mais c'est pas assez. Je le sais, parce que quelquefois je pense, et ça travaille, là ça travaille, on ne sait pas se réunir, mais il est important que nous puissions faire une évaluation dans chaque département. Très bien, donc ce matin je vais vous parler de la vie chrétienne dans le Saint-Esprit, tous les jours. Et lisons ensemble le texte, donc Ézéchiel 47, et le verset de 3 jusqu'à 9 inclus. Je vous ai lu ce texte déjà il y a quelques mois. On était au culte au commun, et là j'aimerais terminer finalement ce que je n'ai pas dit la dernière fois, de toute manière. Sur ce texte-là, on peut donner beaucoup, beaucoup d'enseignements, beaucoup, beaucoup de prédications. Mais vous allez voir, on va parler de quatre étapes spirituelles dans notre vie. Donc, Fred, est-ce que tu peux lire bon, allez, Madame Fred, allez. Allez, Pascal. Excuse-moi, hein, mais bon, tu as servi ta femme, tu vois, c'est bon. Voilà, donc c'est un message très prophétique. Très prophétique, ce message-là nous concerne. Ce message concerne le chrétien dans le monde entier. Ce message concerne Israël. Ce message est prophétique aussi pour l'avenir, l'avenir, l'avenir. Donc je ne vais pas tout dire. On peut écrire un livre concernant sur ce message. Mais je vais prendre quelques pensées qui, sur quoi nous pouvons baser aussi notre vie spirituelle. Donc, regardez, il est question ici de quatre étapes, d'accord, par lesquelles Ézéchiel donc devait passer. Ézéchiel, c'était un prophète, un homme de Dieu, pour ceux qui ne savent pas, d'accord, c'est la Bible qui nous parle de ça. C'était un prophète qui prophétisait, qui donnait des prophéties, qui prédisait des choses, voilà, pour la gloire de Dieu, bien sûr. Et son livre est très, très riche pour nous aujourd'hui aussi. Donc, le prophète a été transporté dans l'esprit, dans une... Et il a vu une vision des choses extraordinaires, ce que nous lisons ici, d'accord? Donc la première étape, voilà, on a vu ça ensemble déjà un moment. Voilà, donc il y avait un ange qui est venu lui parler dans cette transfiguration. Et donc il avait donc une ficelle, une corde, et qui la première fois, donc la première étape, il a mesuré donc 400 coudes, hein, c'est ça? On parle de 400 coudes, ça veut dire 250 mètres à peu près, d'accord? 1000 coudes, ça fait à peu près 450 mètres, donc 4 fois 450 mètres, ça fait, vous voyez, 2 kilomètres, je pense déjà. Donc c'était un fleuve très, très grand, large, profond, d'accord? Je pense qu'entre deux Congo, il y a un fleuve très large, hein, qui compte combien? 5 kilomètres, on m'a dit, non, c'est pas ça? 4? J'ai vu, j'étais là-bas, j'ai regardé, on m'a dit, mais... Voilà, donc, mais je voyais quand même de loin, les maisons, donc à Kinshasa, quand on était à Brazza. Et donc, vous voyez... Chaque fois, 1000 coudes. Donc, la première étape, on va passer très vite, c'est le minimum de Dieu. Le minimum de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est donner notre vie à Jésus. C'est recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur. C'est faire confiance à Jésus. Voilà. Donc, on rentre dans l'eau. L'eau d'un fleuve symbolise la vie. Vous voyez, quand il y a un fleuve, souvent dans des grandes villes, il y a un fleuve qui passe parce qu'avant, on s'installait plutôt tout près d'eau, d'un fleuve, des rivières, d'un torrent. Voilà. Et donc, parce qu'il y a toute une vie autour de ce fleuve-là, de l'eau, et on a besoin de l'eau pour vivre aussi, pour boire. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. On est bien d'accord? Donc, ça symbolise la vie. Mais en même temps, la mer, souvent, il y a de l'eau aussi, hein, nous représente le monde. La mer qui reçoit tout, tous les péchés, l'impureté, toute la saleté, voilà, tout va là. La mer représente le monde, la vie dans le monde, les systèmes, etc. Mais le fleuve représente aussi un renouvellement. Parce que vous voyez toujours de l'eau, mais c'est pas là. C'est jamais la même chose. Hein. Vous voyez, c'est un rafraîchissement. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. J'ai grandi dans les montagnes, il y avait des rivières. Dans les rivières, ce qui était bien, c'est que c'est assez raide. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de cailloux. Et on entend bien les bruits, ça fait bien. Même maintenant, quand je suis dans la montagne, j'aime bien m'asseoir devant. À côté d'une rivière, et il y a de l'eau qui coule et le bruit qui nous fait du bien. Voilà. Et vous voyez toujours l'eau. Et c'est toujours l'eau renouvelée. C'est toujours des choses nouvelles. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Donc voilà, la première étape. La deuxième étape, on avance, d'accord? On avance, on grandit. On est dans les réunions de prière, on pose des questions, on nous forme pour devenir des disciples, on parle de chez nous de fondamentaux, hein, si certains n'ont pas fait, il faut le faire, il ne faut pas être gêné. Mais, moi, j'avais toujours cette soif d'apprendre, j'avais l'impression que je le sais tout. Comme un worship, au début, je ne voulais pas vraiment assister parce que je me suis dit, ils vont prêcher, ils vont raconter, c'est quelque chose que je connais. Mais comme on m'a demandé que je sois là en tant qu'autorité spirituelle, donc j'ai accepté. Mais il y a des moments où je me suis dit, mais c'est tellement profond. Et j'ai même dit, tous les responsables, vous tous devriez passer par des choses comme ça, parce que les scientifiques, la médecine, dans le monde, tout le monde, les politiciens font tous des formations. D'accord? On se met en page, les enseignants, il y a des conférences. Et puis là, avec Dieu, il y a une telle bénédiction, une source inépuisable de bénédictions pour chacun d'entre nous. D'accord? Donc, voilà, il y a le progrès, on progresse, troisième étape, voilà, le prophète est arrivé là aussi, hein, d'accord? Là, les reins, ça doit être là. Oh, moi, je ne suis pas dans la médecine, hein, moi, je suis plutôt dans la métallurgie. Ce n'est pas la même chose, mais les reins, ça doit être quelque part là. Ah, derrière, ah bon, c'est derrière. Bon, ça veut dire là, hein, d'accord? Voilà, il est arrivé là. Donc, nous, la même chose, on avance, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Quelquefois, ce n'est pas très facile, hein, d'accord? Quand je vois Eliane là, il y a peut-être 7 ans, hein, elle était là, là-bas. Combien? Déjà 10 ans! Elle était là, elle m'a regardé comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qui se calme un peu? Puis à la fin, j'ai dit, Eliane, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Elle a dit, bon, je le fais tout de suite. Détermination. 10 ans après, elle est là. Mais regardez, il fallait passer par beaucoup de combats, des difficultés. Sa maman de Fred. Dites-lui bonjour après. Hein. T'as déjà été? Bon, tu dis. Donc vous voyez? Troisième étape, et on arrive au quatrième, et là je vais m'arrêter un petit peu. Donc lorsque Ézéchiel est revenu donc de cette quatrième étape où il ne pouvait plus marcher, vous avez compris ce message? Alors ça montait. Quand je prends Christiane quelquefois à la mer ou même dans une piscine, ça nous arrive, bah, avant un peu plus avec les enfants. Alors, elle avance, elle avance, elle avance. Et elle est très prudente, hein, très prudente là. Et puis, elle arrive là, pas moyen de la faire avancer. Même avec moi, même je lui dis, je te tiens, je prends ta main, je viens, j'aimerais qu'elle arrive en moi, en moi là, hein. Mais elle s'arrête là, elle s'arrête là. Et moi, je continue, je continue, je continue, je continue. Tout à coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne discute pas avec la mer, je ne discute pas avec de l'eau, je ne discute pas avec cette piscine-là. Je fais confiance à qui? Non, c'est pas encore Dieu là. C'est l'eau. C'est profond. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je nage. Je dépends entièrement de l'eau. Je ne discute pas avec de l'eau. Je le sais que c'est possible. Je le sais que voilà. J'ai fait confiance. Donc là, la même chose dans la vie spirituelle. On raisonne, on réfléchit. Mais la vie spirituelle, et là j'associe pas tout simplement notre vie de tous les jours, voilà, la consécration, la pureté, la foi, mais aussi le Saint-Esprit, parce que l'eau représente le Saint-Esprit, l'eau représente le surnaturel, que toi et moi, nous pouvons vivre tout à fait naturellement. Vous voyez? Que les surnaturels, on peut le vivre naturellement. Alors, au début, on nous parle de la puissance de l'esprit, le baptême dans l'esprit, mais ça commence là. Et plus on avance, voilà, on commence à nager, et je ne pose jamais la question, je ne discute jamais avec le Saint-Esprit, parce qu'au moment où vous discutez avec le Saint-Esprit, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Non, je ne discute pas avec toi. Je te fais confiance. C'est oui. Et puis voilà, je me lance. Je vis le surnaturel. Combien de fois je reçois de la part de Dieu de révélations, voilà, pour la vie de quelqu'un, pour la vie de ministère, quelquefois, on a quelques amis, on se téléphone, on se fait confiance, on est là pour s'encourager, pour l'avenir de quelqu'un. Et puis je suis là, et puis je dis, Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que j'aimerais pas me tromper? Je n'aimerais pas mentir à des gens, je n'aimerais pas être manipulateur. Je suis sauvé, je veux faire dans le mieux possible, dans la transparence, ce que toi tu me demandes. Et tout à coup, Dieu, si ça vient vraiment de Dieu, Dieu me dit, agis, ne discute pas, ne demande même pas à ta femme. Et puis je décide et j'annonce à ma femme, elle dit, ensemble, parce qu'elle a compris, le Saint-Esprit, je ne raisonne plus. Je ne réfléchis pas. Je ne discute pas avec le Saint-Esprit. La vie est dans l'Esprit. Ça coule le Saint-Esprit, hein? Bernard, ça va? Tu me suis là? Parce que je sais que. Tu as compris, c'est bon? Bon. On va avancer ensemble. Hein. Un grand homme de Dieu, hein, Olivier, ton père. Hein. Tu verras. Hein. On va faire des exploits. Hein. Excusez-moi. Donc voilà, Ézéchiel, il a dû nager, il revient au bord du torrent, du fleuve, et il voit des changements. Vous avez vu ça? Il y avait des arbres, et avant il n'y en avait pas. Stéphanie, t'as une vision, tu vois. Il revient de la nage. Et il voit les arbres, et avant, il n'y en avait pas. Ça veut dire que pendant que Ézéchiel nageait, se trouvait dans l'eau, Dieu transformait les circonstances négatives autour de lui. Et tout à coup, il voit les arbres fruitiers. Alors, tu sais que toi et moi, voilà, les arbres symbolisent la vie de ta vie et de la mienne. Je suis un arbre qui doit porter les fruits. Allô? Je suis un arbre qui doit porter les fruits. Dites les uns aux autres. Tu es un arbre qui doit porter les fruits. Donc la même chose, toi et moi, nous, les chrétiens, si nous nous lançons dans cette nage du Saint-Esprit, Dieu veut que nous allions donc dans le large. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui nageait dans l'eau de 10 cm? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, non? Allez, bon, et s'il y a un miracle? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais, voilà. Et ensuite, on nage. La même chose dans la vie spirituelle. Tu commences, t'avances, discute pas avec le Saint-Esprit. Dieu a toujours raison, le Saint-Esprit a toujours raison. Amen. Voilà, fais-lui confiance et nage. Et nage. Et puis ensuite, quand tu vas nager, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer autour de toi. Tu verras des arbres autour de toi. Fruitier, il y aura des fruits, des miracles, des prodiges, des âmes sauvées, des âmes transformées. Pas plus loin que dimanche dernier, une dame est venue me voir pour me dire, ah Antoine, parce que Fred a parlé sur l'amour du Père, hein, c'était ça. Et la dame, elle est venue, elle t'a interpellé, elle est venue me voir, elle dit Antoine. Ah, j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer avec elle. Elle m'a dit, tu sais Antoine, moi je suis élevé par mon grand-père. Mais mes enfants ne connaissent pas leur père. Est-ce que tu peux prier pour mes enfants, pour mes enfants? On vient de loin. Certains viennent de loin. Mais Dieu nous a aimés. Dieu nous aime. Et puis quand je vois une personne comme ça, je vois les forteresses qu'il faut détruire. Parce qu'il y a la culpabilité qui nous attaque. On est bien d'accord? Quelquefois, pour des petites choses, la culpabilité nous perturbe. Et là, la même chose, il faut les détruire. Faut détruire! Au moment où c'est détruit, on ne revient plus en arrière. C'est bon. C'est pas comme quelqu'un, il n'y a pas longtemps, est venu me voir Antoine. Tu vois, il dit, si je meurs, je vais à l'enfer. Tellement de choses mauvaises dans ma vie. Regardez, il y a la mort autour de nous. Il y a la mort autour de nous, il y a des cadavres autour de nous. Et nous pouvons partager la richesse que Dieu nous a accordée. Une fois de plus, il faut briser la mort, il faut briser la culpabilité. Et il faut dire, c'est fini. Demain, on ne parle plus de la même chose. L'eau coule. D'accord? Et quelquefois, une semaine après, deux semaines après, un mois après, un an après, il y a des prédicateurs qui se succèdent. Et puis, voilà, on a confié des choses. Et puis il y a un autre qui arrive, on confie la même chose. Et il y en a un autre qui arrive, on confie la même chose. Mais quelquefois, moi, j'ai dit, mais c'est déjà réglé. C'est le mensonge de Satan, c'est lui qui veut nous détruire, c'est lui qui nous culpabilise, parce qu'il veut nous bloquer dans sa puissance négative de destruction. Donc vous voyez, il y a des choses, des étapes dans la vie. Si j'étais dans l'eau jusqu'aux chevilles, et puis après, si je suis jusqu'à genoux, ben j'avance pour aller plus loin. Et ensuite j'avance, je ne recule plus, j'avance pour pouvoir nager. Découvrir l'abondance de Dieu dans le Saint-Esprit. Découvrir le surnaturel naturellement. Et puis ensuite, tous ces problèmes-là, ça se règle. Parce qu'il y a la puissance de Dieu avec nous. Amen. Voilà, je vais prendre encore une référence biblique. L'évangile de Jean, chapitre 7. Et le verset 38, on va lire ensemble, hein, on va se lever maintenant parce que là vous m'écoutez, si jamais quelqu'un s'endort, hein, donc comme ça, ça vous réveille. Hein. On se lève ensemble, faites le tour comme ça, c'est bon. Et nous lisons ensemble avec Pascaline ce verset. Attends, celui qui croit en moi, et après non, celui qui croit en moi. Bon, maintenant tu vas lire avec ton voisin ou ta voisine ensemble, comme ça, vous lisez ce verset. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes formidables. Vous gagnez 2 points au ciel. Bernard, ça va? Si tu t'ennuies, tu viens me voir, hein? Si tu t'ennuies, tu vas me voir, hein? C'est bon, pour le moment, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. Bon, le niveau est bon, hein? D'accord, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Hein? C'est lui qui croit, bien sûr. On passe par des étapes, on nage. Au moment où on nage, on est rempli. On est bien d'accord? Et puis, ensuite, voilà, si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus-Christ, c'est pour être sauvé, bien sûr, c'est formidable, mais voilà, ça ne se termine pas là. La vie ne se termine là. Dieu veut se servir de toi et de moi. Donc, il nous fait tous les moyens pour que nous soyons remplis d'une source surnaturelle, céleste, pour que de fleuves d'eau vive puisse couler de notre sein. Et au moment où ça coule, ça apporte le rafraîchissement, la vie, et vous allez voir, ah, il n'y avait pas d'arbre ici. Il y a des arbres, il y a même les fruits. Oh là là, formidable, ça change, on avance. Amen. Donc voilà. Est-ce que tu veux vraiment être celui qui est rempli de la vie de Dieu, du Saint-Esprit, et voir le progrès, l'évolution, et voir de fleuves qui couleront dans une direction, ce sera peut-être la guérison, dans une autre direction, ce sera un encouragement, la libération. Le sourire, faire bien à quelqu'un, annoncer la bonne nouvelle avec le feu, avec une détermination. Alors mes amis, après on va prier pour différents sujets. Le principe biblique, quand vous lisez la parole de Dieu, voilà ce que j'ai essayé de condenser plusieurs idées, plusieurs pensées, comme la vision. Hein, on fait tellement de choses, donc il faut définir une vision. Une vision, pour que cette vision soit claire en quelques mots, une phrase. Moi, ma devise à la maison, c'est en avant. Quand j'ai parlé avec mes enfants, en avant, ils savent de quoi s'agit. Il ne faut pas s'arrêter, il faut avancer. Dans le spirituel, dans la profession, dans les études. Quand j'ai dit à mes enfants, n'oubliez pas Dieu. Ça, c'est ma devise. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je n'ai jamais accepté que le négativisme rentre dans ma maison. Pour que le négativisme détruise mes enfants. Donc, il fallait toujours, sans cesse, voilà, répéter les choses. Aujourd'hui, mes enfants sont fiers de moi, de leur père. Parce que j'ai essayé de faire ce que Dieu me demande. Amen. Alors voilà, vous pouvez leur demander, hein, personne qui va me critiquer. Essayez de leur parler de parler mal de leur père. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. D'accord, les principes bibliques. Appel, les hommes et les femmes, et les finances. Quand j'étais gamin, je me suis retrouvé en France avec une petite valise. Je ne savais pas un mot français, je ne savais même pas dire bonjour. Comme ça, par des circonstances, voilà. Encore à cette époque-là, sortir du bloc soviétique, ce n'était pas facile. Dieu a fait les miracles. Je me retrouve là, je suis juste. Voilà, j'ai suivi mon père qui est venu ici exercer le ministère, il était invité. Je devais rester un an, regarder, puis après, trouver une blonde, se marier, les enfants. Mais je me suis dit, Seigneur, est-ce que je suis là en France pour juste mieux manger? Est-ce que je suis là en France juste pour manger le chocolat? Parce que je n'ai jamais vu en Pologne, à cette époque-là, pendant qu'elle mangeait le chocolat. Moi, je n'ai même pas vu en Pologne le chocolat. Vous savez, pour les plus âgés, vous vous souvenez, hein, la Pologne a été écrasée par les deux blocs, hein, l'Est et l'Ouest, écrasée, il n'y a plus grand-chose qui est resté. Et on est là, le peuple polonais. Hein. Bon, il y en a d'autres qui ont vécu la même chose. Heureusement que la France était là, que la Grande-Bretagne était là, les Américains étaient là, et la Pologne est là. Mais bon, je ne suis pas politicien. Je suis venu ici et puis j'ai dit, Seigneur, et très vite, très jeune, parce qu'il y avait un appel sur moi. Et je dis, Seigneur, si je peux gagner un Français pour toi, ben, ça sera la plus belle chose dans ma vie. Un Africain, un Américain, peu importe, un Polonais, pourquoi pas. Et je n'étais pas encore marié, j'étais jeune homme, j'avais tous mes cheveux. Christiane, elle sait qu'elle avait un bon garçon, un bon fiancé avec ses cheveux. Voilà, j'étais mince, pas encore marié. Et regardez, à quel cas ici, c'est Marc là-bas. C'est à lui que j'ai prêché l'évangile. C'est lui là-bas. Sa femme, ses enfants se sont convertis. On les a baptisés, les premiers fruits, l'arbre, parce que j'ai commencé à libérer. Je ne suis pas venu en France juste pour mieux vivre. Même si je me suis acheté une voiture sportive, hein, j'ai travaillé et puis... Vous savez, pour nous, quand vous ne pouvez rien, et puis après, tout à coup, vous pouvez travailler, puis à se payer une voiture. Là-bas, on ne pouvait même pas se payer un vélo. Hein. Et là, je me paye une voiture sport. C'était une voiture Fiat coupé sport. Quand on s'est marié, Christiane, elle roulait avec, elle était heureuse, un peu fière. Et moi, j'allais au travail à pied. Je reviens à ça. On a commencé à l'évangéliser, parler. Je dis, Seigneur, je suis en Pologne, en France, ben, c'est pour gagner quelques-uns. Seigneur, tu as mis des fleuves d'eau vive en moi. On est jeunes, il faut que je communique. Il faut que je communique. Regardez, depuis toutes ces années, ce que nous faisons, ce que Dieu nous a permis de faire. Quand je suis venu dans ces locaux-là, c'était un hangar, et humainement parlant, oh là là, Christiane, elle avait peur pour moi, elle avait les larmes aux yeux, refusée. Et je me suis dit, Seigneur, tu as fait quelque chose là, pendant ces années, eh ben, on continue. On construit un outil pour pouvoir gagner quelques-uns. Amen. Et parmi ces quelques-uns, il y a Noémie, il y a Julien, il y a... Qui s'est converti dans cette salle ici? Regardez. Oh, pff, oh là, bon, allez, il y en a beaucoup. Hein. Oh là là, plan. Regardez. Là, c'est une bénédiction de Dieu, la multiplication spirituelle. Troisième chose, et je vais terminer, on va prier. C'est les finances. Alors, souvent dans les églises, on ne veut pas trop parler des finances. Et moi, j'étais parmi ceux qui ne voulaient pas parler des finances. J'ai mis beaucoup d'années de comprendre que les finances faisaient partie partie de principe, c'est un principe biblique. On est d'accord là? Un principe biblique. Et puis par différentes circonstances, Dieu, voilà, j'ai reçu cette révélation. Et j'ai compris clairement que ce n'est pas parce que je vais donner une petite offrande que l'œuvre de Dieu va avancer. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez-vous maintenant, si on arrête tous de donner, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben 2 mois après, 3 mois après, on ferme. On ferme quoi? La porte! Et tout s'arrête. Et puis nous, on va un peu se retrouver à droite, à gauche, et peut-être chercher une autre église, ou prier à la maison, ce n'est pas un problème. Mais le témoignage visible, voilà, c'est un témoignage visible, là, nous avons la liberté dans notre pays, peut être détruit, voilà, par une philosophie, parce qu'on va dire que les finances, ça ne fait pas partie de l'œuvre de Dieu. Alors, avant ceux qui se sont convertis là, il y avait des gens qui ont béni l'œuvre de Dieu, qui ont donné les dîmes. Le mot dîme, c'est aussi partout, ça traduit, chacun traduit à sa façon, voilà, dans nos églises. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une église, et puis voilà, on m'a dit, vous prêchez la dîme. J'ai dit, oui, la dîme, c'est minimum. Il ne faut pas prêcher la dîme pour s'arrêter à la dîme, mais la dîme, c'est minimum. La dîme, je vous explique. Il y avait un Africain, une fois qu'il est venu, c'était à Waterloo. Et voilà, le Seigneur m'a demandé de lui donner 10 euros. 10 euros. 10 euros. Il avait vraiment besoin. Et lui, il prend 10 euros. Et il me rend un euro. Et il m'a dit, c'est ma dîme. Vous avez compris? Allô? C'est vrai que c'est pas la dîme que nous sauve, on est bien d'accord? C'est Jésus qui nous sauve. Mais notre foi doit être aussi la foi sans œuvre. Voilà. C'est facile de prêcher. C'est facile de... Enfin, facile, c'est pas facile de prêcher, c'est vrai. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai travaillé pendant une semaine, alors ça m'a coûté. Mais bon, c'est bien de prêcher. Mais on a une responsabilité, c'est bien de prophétiser. On a une responsabilité. C'est bien d'avoir une responsabilité dans un domaine ou dans un autre. Mais toutes ces actions ont besoin de finances. Et c'est biblique. Fred, tu te souviens, on a prié pour une église. C'était chez Jean Denis, là. Il manquait 20 000 euros. C'est ça. Moi, j'ai sorti 20 euros. J'ai dit, on va prier. Parce que dans quelques églises, quand je vois les groupes, tout ça, la misère, je vois la petitesse. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu es plus grand que ça. On est bien d'accord? Au moins minimum pour accueillir les gens. Et là, on a prié pour quelqu'un, il fallait 20 000 euros. J'ai pris 20 euros. On a prié, on a fait l'onction d'huile. Et puis dans les jours qui suivaient, ce pasteur-là, qui est ici dans la région, il a eu 20 000 euros par quelqu'un d'extérieur. Il était âgé, pas de l'église. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec Pinot? Ici, dernièrement, on voulait soutenir aussi une église, voilà, qui a acheté 400, qui a acheté 1000 mètres carrés. Et ça coûte combien, Fred? 500 000. Hein, c'est ça, il est toujours avec moi, donc il connaît tous ces détails. Et voilà, il lui manquait combien? 150 000. Le vendeur, lui a dit, je t'avance 70 000. Le vendeur, sans signer, sans rien faire, je t'avance. Et tu me rends là quand tu veux. Mais il manquait encore 80, c'est ça? Ouais. Alors. Et puis moi, j'ai dit, écoutez les gars, on était une dizaine de pasteurs. On va faire un geste. On va faire un geste. J'ai fait pour vous, vous avez participé. J'ai dit, moi je m'engage à donner 500 euros, c'est ça? 500 euros. Il y a un pasteur qui dit, j'ai pas d'argent. D'accord, je t'avance. Tu me rends là. Et puis on a trouvé quelques milliers de personnes, d'euros, et puis on a dit, c'est un geste. Et puis bon, je passe par... je laisse passer tous ces détails. Aujourd'hui, les locaux sont achetés. Achetés. Et puis une bénédiction pour la région. Des locaux de 1000 mètres carrés. Certainement, on va faire des choses ensemble ici dans l'île sud. Et regardez, l'œuvre de Dieu, c'est ça. Dieu n'a pas besoin de tes finances. On est bien d'accord? Mais Dieu veut travailler avec nous. Apporter dans la maison de l'Éternel les offrandes et les dîmes. Et vous allez être bénis. Je ne vous parle même pas parce que je lis ça dans la Bible, mais je vous parle parce que nous avons expérimenté. Tout le temps. Combien de fois, quelquefois, il fallait, on a gardé de l'argent pour les impôts. Et il fallait partir quelque part, il fallait payer le billet. Et puis on revient et Dieu a tout réglé. Mais avant, il fallait donner. Vous voyez ce que Dieu multiplie ce que nous donnons. Si tu donnes un euro, ben Dieu va multiplier un euro par 10, ça fait 10. Mais si tu donnes 100 euros, ben Dieu va multiplier 100 euros par 10, ça fait beaucoup plus. On est bien d'accord? Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a les vacances qui s'approchent. Et ça va passer très vite. Et au mois de septembre, on rentre dans une nouvelle période. J'aimerais vraiment prier ce matin pour les finances. Pour ceux qui n'ont pas de travail, voilà, on va prier pour les finances. On a fait ça dans les pastorales et ça marchait. Fred, ça marchait? J'ai un témoin ici. Hein. On va prier pour les finances. Si tu es un étudiant, tu as des problèmes de finances, voilà, on va prier pour les finances. D'accord? Et si tu as le problème de donner les dîmes et les offrandes, ben on va prier. C'est ton affaire. Moi, je sais ce que je dois faire. Nous, les chrétiens, je ne vous cache pas, l'Église nous coûte 20%. Nous donnons la dîme et tout ce qui est au plus, les invités, tout ça, ça fait 20%, plus ou moins. Allô? Je vous donne juste un témoignage. Et on est vraiment béni. On est vraiment béni. Parce que les arbres poussent. Les arbres fruitiers poussent. Parce que ça fait partie de la vie spirituelle. Est-ce que tu veux que nous puissions sauver quelques-uns? Avant les bâtiments, les actions, les affaires, ben nous avons besoin de l'argent. On va prier pour les finances. On va se lever tous ensemble. Fred, est-ce que tu peux venir ici? Et puis quelqu'un d'autre peut-être. On va toucher le 50 euros là. Et on va prier pour que le Seigneur guérisse ta trésorerie si elle est malade, si elle est en bonne santé, pour qu'elle soit encore plus forte, d'accord? Si tu n'as pas de travail, si tu as des problèmes financiers, on va prier. Qui se sent à l'aise?